premier engagement, en fait, c'est au sujet de la question de la réforme du secteur de sécurité qui est vraiment à un lien direct avec les questions des violences sexuelles, le fait qu'il y a ces unités qui étaient intégrées dans les FARDC, l'armée nationale, mais qui sont suspectés de commettre des violences sexuelles. Alors, il a été question donc de voir dans quelle mesure il y aurait une réforme du secteur de sécurité qui tient en compte la mise en place de mécanismes de prévention des violences sexuelles contre les femmes et les hommes. C'était le premier engagement qui a été pris. Ça veut dire qu'il y aura vraiment des efforts qui seront faits pour que lorsqu'il y a intégration de nouvelles unités dans les FARDC, qu'on puisse contrôler, voir celle-là qui est impliquée dans les violations de droits de l'homme, que celle-là ne soit pas intégrée dans les FARDC.
Est-ce que il y a eu aussi des décisions prises au niveau du contrôle de l'exploitation des ressources naturelles, parce que bien sûr les violences sont alimentées par toutes sortes de trafics?
Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des violences sexuelles qui sont commises par les groupes armés qui contrôlent certaines régions minières. On a vu par exemple le cas de Walikale, vous avez suivi peut-être l'incident de Walikale qui était commis par des Maïmaï, mais essentiellement qui contrôlent des ressources naturelles, des mines de coltan et d'or notamment. C'est le cas également de Raya Mutomboki au niveau de Chabunda, mais également bien d'autres coins. Mais alors, donc, cela a été discuté, mais comme c'est généralement des régions qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement congolais. Mais effectivement, mais ce lien a été effectivement bien établi, le lien entre l'exploitation des ressources naturelles, parce que ça permet à ce que les groupes armés qui contrôlent les mines d'or, de coltan et de diamants, etc., donc les utilisent pour s'armer et commettre par conséquent des violences sexuelles. Mais généralement, c'est des coins qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement congolais.
Est-ce qu'on va doter la justice militaire et civile des capacités, des ressources nécessaires pour qu'elle puisse vraiment aider à lutter contre ces sévices sexuels?
Oui, effectivement, on a vu qu'il y avait un défi vraiment très très important pour la justice militaire et civile, en termes non seulement de capacités et en termes de capacités techniques, mais également le fait qu'il y a beaucoup de coins où il y a très peu de juges, par exemple le cas d'Ituri, l'Ituri par exemple, où il y a un très petit nombre de juges, moins de 10, alors que dans certaines régions de Kinshasa, il y a plus de 60 juges. Les juges ne veulent pas aller à l'intérieur, ça pose un défi très très majeur. Alors l'engagement, ça a été non seulement qu'on dote la justice militaire et civile des capacités en ressources humaines, mais également des capacités en ressources matérielles et logistiques. Passe également un défi. On a discuté avec les autorités judiciaires qui ne peuvent pas aller sur le terrain des fois à cause des problèmes de logistique et d'accès, effectivement. Donc, il y a eu cet engagement. Donc, le gouvernement fera son mieux. Il n'y a pas également un appui de la communauté internationale dans les Nations Unies pour voir dans quelle mesure ces défis peuvent être relevés.
Comment va-t-on pouvoir juguler le trafic d'armes dans la région? Parce que les milices qui commettent ces sévices ou les militaires qui commettent ces sévices sont lourdement armés. Que va-t-on faire de ce côté-là?
Vous savez, le Congo, c'est un pays très grand et de dimension continentale, comme l'Europe de l'Ouest, avec 9 voisins, mais avec également des frontières assez poreuses. Donc, c'est un défi très, très difficile. Comment contrôler le flux d'armes? Effectivement, encore une fois, comme je l'ai dit, dans les régions contrôlées par le gouvernement, des mesures peuvent être mises, même si ce n'est pas une question qu'on a discutée directement. C'est toujours difficile dans les coins où le gouvernement n'a pas encore réussi à imposer son autorité. Mais au fait, il est vraiment clair qu'aussi longtemps que les armes continueront à circuler, aussi longtemps également que l'État ne sera pas capable de contrôler certaines régions, donc les milices vont continuer à sévir dans ces régions et commettre des violences sexuelles. Donc c'est vraiment un défi et donc au fait, il y a des programmes qui sont également en cours avec les Nations Unies, un programme de DDR, ça veut dire la démobilisation, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Une question qui est claire, c'est que le gouvernement congolais a fourni certains efforts notables dans le domaine de lutte contre l'impunité. Et quand Mme Bangoura a rencontré le président de la République, il a été clair effectivement qu'il y a eu des efforts en termes d'organisation d'audiences foraines, il y a eu des efforts conjoints avec les Nations Unies dans le cadre d'enquêtes conduites dans le contexte des cellules d'appui aux poursuites judiciaires. Mais il y a eu également certains efforts dans le domaine carcéral. Il y a eu au moins la prison de Ndolo qui a été refaite. Il y a eu une nouvelle prison construite à Goma, également à Routuro, une nouvelle prison. Donc il y a eu ces efforts dans ce centre que nous pensons pourront contribuer efficacement à la lutte contre l'impunité. Et là, les Nations Unies sont engagées à renforcer et appuyer ces efforts, et le bureau de la répondante spéciale du secrétaire général et spécialement l'équipe d'experts sur l'état de droit et des violences sexuelles que je dirige s'est mis à la disposition du gouvernement congolais pour appuyer leurs efforts.